C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up.
Please
shut up.
Stop.
Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 26 de la saison 2. Nous voici repartis pour une petite heure de discussion autour des séries télé avec Aurore.
Bonsoir.
Bonsoir Aurore. On va, comme à notre habitude, revoir quelques pilotes que tu as pu voir cette semaine.
Oui, on va commencer avec, on entend le générique des Revenants là en fond. Mm-hmm. Je vais parler du remake américain des Revenants, oui, qui s'appelle The Returned, et qui est notamment disponible sur Netflix chez nous. En semaine après semaine, les épisodes tombent. Un petit peu le même principe qu'avec Better Call Saul, par exemple.
Très bien. Et alors, par rapport au Revenant, cette version plus ou moins anglaise, américaine.
Je dois dire que je suis assez conquise par ce remake. J'ai vu passer pas mal de critiques disant que c'était plan par plan la même chose, etc.
C'est vraiment vrai. Censé être la reprise, quoi, en gros, vraiment.
Ah oui, oui,
ah, c'est pas le même concept, c'est le remake.
Non,
vraiment.
C'est vraiment le remake et c'est vrai que pour une grosse partie de ce pilote, je n'ai vu que le pilote, c'est vraiment quasiment du plan par plan pour l'entièreté de l'épisode. Un certain nombre de personnages du casting même ont été, à mon avis, pris pour leur ressemblance avec les acteurs français d'origine.
Et quoi ? C'est un accord qui aurait dû être signé avec la série d'origine ou c'est plus une volonté paresseuse de copier lâchement le concept original?
Ça m'étonnerait qu'il y ait un accord quelconque. À mon avis, ils étaient tellement conquis par l'original qu'ils n'ont pas voulu trop s'éloigner. Mm-hmm. Mais malgré tout, ça fonctionne. Autant j'avais pu, je ne sais plus si je l'avais fait dans l'émission, mais critiquer en tout cas le remake qui avait été fait de Broadchurch, qui s'appelle Graceland, et qui était aussi une reprise quasiment plan par plan de l'original, mais qui ne m'avait pas du tout convaincue parce qu'il y avait une sorte de supplément d'âme qui n'y était pas. C'est un petit peu inexplicable, hein, toujours ces choses-là, mais notamment j'avais l'impression qu'au niveau des acteurs qui avaient été choisis, ils étaient beaucoup moins touchants que les acteurs anglais d'origine.
Ouais, ben, pour moi je suis toujours un peu, enfin je suis content pour toi que tu aies trouvé ton bonheur dans ce remake, mais voilà, pourquoi ne pas tenter quand même de refaire un peu la roue et de se réinventer son propre univers, quoi, finalement. Enfin, c'est un nouvel univers, je comprends bien, mais pourquoi pas doubler tout simplement la version française et la vendre aux États-Unis, quoi,
oui,
tu vois.
Oui, mais bon, ça, c'est la mentalité américaine, il faut faire avec, c'est tout. C'est pas, en soi, ça me paraît pas dramatique. Ça peut en choquer certains. C'est vrai que nous, on consomme beaucoup de séries américaines. Pourquoi les Américains ne consommeraient pas de séries européennes, c'est évidemment un débat, mais en tout cas, la mentalité pour le moment est comme ça, et donc on fait avec ce qui est.
Okay.
En soi, je dois dire que l'intérêt, malgré tout, j'ai l'impression, c'est que même si on peut imaginer que toute la première saison va se faire sur le même mode, c'est-à-dire quasiment du copier-coller, il y a l'intérêt au minimum de le voir jouer un petit peu différemment par de bons acteurs également. Hein. Les acteurs français étaient très bons, mais les acteurs américains qui ont été choisis sont aussi très bons. Et puis, ben, il y a toujours l'espoir, s'il y a une saison 2, de voir les chemins s'écarter. Et là, ce sera vraiment super intéressant, puisqu'il y a la saison 2 de des Revenants qui va arriver à l'automne, normalement. Et puis, s'il y a une saison 2 de la version américaine, on pourrait avoir là un scénario totalement différent. Et ça devrait être passionnant, d'après moi, de voir comment ces deux univers, qui sont à la base identiques, peuvent
diverger.
Ouais.
Oui, bon, bah, tu vois à long terme, hein, parce que moi, selon moi, s'ils sont entendus, ou en tout cas s'ils ont voulu le faire comme ça dès le départ, bah, ils vont s'y tenir. Ça va être plus compliqué, tu vas me dire, parce qu'ils vont arriver en même temps, mais bon.
Ça va, à mon avis, au niveau ne serait-ce que de la temporalité de la production, ça ne sera pas possible qu'ils continuent à faire du copier-coller de la version française. Donc, ils feront quelque chose de différent.
Ok. Bah voilà.
En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. Je dis pas que je regarderai toute la saison 1. Parce que bah, j'ai vu la version française
et
c'est tout à fait la même chose. Mais par contre, regarder le dernier épisode et attendre de voir s'il y aura une saison 2 et à quoi elle peut ressembler par rapport à la version française, là, ça m'intéresserait vraiment.
Très bien, voilà, premier pilote convaincant. La suite.
Alors, la suite, ça va être. Je vais en parler vite fait, comme ça c'est fait, parce que je compte pas continuer. Deux autres pilotes que j'ai vus qui ne m'ont pas convaincu. Il s'agit de Dig.
Dig.
Qui est une série un petit peu compliquée. On sent qu'on s'engage dans un truc un petit peu mystique, religieux, etc. Ça se passe en Israël avec un enquêteur américain qui enquête sur la mort d'une jeune femme. C'est un peu lié probablement à des sectes souterraines ou je ne sais quoi.
Souterraines. Elles ont besoin d'être sous terre.
Mais écoute, c'était dans une grotte.
Ok.
Il y a un moment, ils sont dans une grotte.
Et donc, c'est une secte souterraine. Ils ne font rien d'autre de leur vie.
J'en sais rien.
Mais ça ne t'a pas plu.
C'est pas ça. C'est vraiment le genre de série qui me touche pas du tout. Moi, tout le discours mystico-religieux, ça m'emmerde et donc c'est pas pour moi.
Restons polis.
Excuse-moi.
Voilà, donc ça t'ennuie très fortement.
Voilà.
Très peu pour toi. Et alors la suivante
Elle est bien.
Celle-là, je l'aime bien.
La suivante, elle est bien parce que
malgré
tout, elle est rigolote.
Ah oui.
Déjà, on peut dire comment on l'appellerait en français.
Je sais pas moi, comment c'est encore
Les experts internet.
Les experts internet,
mais
voilà.
Oui, mais oui, je crois franchement qu'il faut déposer le brevet pour cette traduction qui est super classe, faut l'avouer.
C'est déjà fait.
Les experts internet.
CSI...
Cyber.
C'est cyber.
Voilà.
Alors, on retrouve Dawson.
Ah, mais voilà, déjà ça c'est un plaisir en soi.
Dawson.
Et c'est un petit peu... Le beau gosse de l'équipe, hein,
ouais.
le mec super athlétique et tout.
Pourtant, sur Internet, tu dois pas beaucoup courir. Hein.
Non, mais il y arrive quand même.
Souvent, bah, t'es un geek derrière ton clavier. Donc,
mais lui, non.
Lui, non.
C'est lui,
un cyber.
C'est pas le geek. Lui, c'est
sportif.
Il y a la tête, mais lui, c'est les jambes.
C'est les jambes.
C'est clairement les jambes.
Et ça ne t'a pas plu de le revoir dans ce rôle-là?
Ah, mais c'était drôle.
Ouais, mais t'as jamais été fan de toute la série CSI et les experts et compagnie.
Non, c'est vrai aussi.
Et la série la plus pourrie, donc sur les experts internet, encore moins.
Mais je
c'est pas là que tu vas accrocher.
Malgré les très nombreux acteurs, à nouveau les très nombreuses têtes connues et qui font toujours plaisir malgré tout à revoir, non, j'ai pas été convaincue, ne serait-ce que par cette première histoire de mise aux enchères de bébés à travers des caméras.
Ah oui,
de surveillance,
je me souviens bien. Ah non,
c'était pas mal.
Ah oui, moi j'ai adoré, surtout que je connais un peu tout ça. Mais non, c'est bien. Ils inventent n'importe quoi avec l'informatique, quoique on serait bien étonné parfois de ce qu'on peut faire ou pas faire avec ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait un requin dans l'histoire? Non. Ils ne sont pas à Miami.
Ils laissent ça à Miami. Donc voilà, pour les fans des experts, pourquoi pas. Mais
c'est une nouvelle déclinaison peu convaincante.
Voilà, oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça.
On passera.
Tout à fait.
Et donc, une dernière note positive. Alve Nalve.
Voilà.
Entre les deux.
Une série qui était très attendue pour cette année-ci, qui s'appelle American Crime.
Ouais. Je vois pourquoi c'est entre les deux.
Qui part d'un crime qui a été commis sur un couple blanc. On soupçonne qu'il s'agirait de latinos qui auraient fait le coup.
Oh, les latinos.
Et du coup, on va suivre à la fois la famille ou les familles d'ailleurs des deux membres de ce couple qui a été sauvagement agressé. Uh-huh. On va suivre aussi la famille d'un des suspects latinos. Et puis, j'imagine que ça va encore se complexifier.
Ouais.
Il me semble qu'il y avait aussi d'autres personnages.
Très certainement. Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ce pilote. C'est que, un, ça avance très vite, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas où ils veulent en venir.
À la fin de l'épisode, on avait déjà beaucoup d'informations.
Voilà, ce n'est pas vraiment une enquête qui s'enlise, ou en tout cas en apparence. Peut-être qu'ils vont vraiment dans la mauvaise direction, mais en tout cas, ils ont bien avancé. Et puis, je déteste vraiment la prestation. Enfin, ce n'est pas la prestation, c'est une très bonne prestation, mais voir cette actrice donc de
Desperate... Felicity Huffman, oui.
En vieille femme aigrie qui vient de perdre son fils, on peut le dire, qui n'est vraiment pas agréable, qui n'a pas de bonnes idées dans ces moments-là. Elle m'a énervé.
Oui, mais ça, c'est une question de personne. Tu n'aimes pas cette...
Non.
Tu n'as pas aimé ce
personnage. Je n'aimerais pas voir ce type de personnage devant moi, ça c'est clair.
La qualité de la série en soi, c'est une série qui était très attendue et je dois avouer que moi, j'ai trouvé ça assez décevant finalement. Parce que, à part la manière de filmer qui est un petit peu...
Oui, ça reste bien, c'est propre.
Oui, qui est très propre, un peu documentaire comme ça, du coup ça fait un petit peu un télo, mais...
Ça c'est un préjuge.
Excuse-moi.
Ben oui.
Mais c'est vrai que, à part ça, l'histoire, j'ai pas trouvé ça passionnant, je n'attends pas avec impatience de voir la suite... Voilà, j'ai été un petit peu refroidi. Maintenant, l'intérêt peut arriver un petit peu plus tard. Hein. Je ne désespère pas. Mais jusqu'ici, bon,
voilà.
Ça casse pas la patte à un canard, comme on dit.
À suivre donc.
Voilà.
Bon, on va faire une petite pause musicale, comme toujours, avant d'aborder le sujet du jour, la part de vérité que nous apportent les séries télévisées.
Eh oui.
Mais comment je dis ça alors qu'on ne savait pas le dire juste avant l'émission? La musique, ce sera donc...
Alors, la musique, ce sera une musique qui a été entendue dans The Return. C'est Welcome Home de Radical Face.
voilà de retour, on va aborder donc ce sujet du jour, la part de vérité que nous apportent les séries télévisées qui nous est transmise.
Oui, voilà. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? Je vais donner un petit peu la citation qui est à la base de ma réflexion. C'est une citation qu'on trouve en exergue d'un livre de Stephen King qui s'appelle « Ça ».
Accrochez-vous, hein, attention.
A priori, il y a pas mal de gens qui connaissent. Et qui nous dit « La fiction n'est que la vérité que cache le mensonge ». Bien justement, aujourd'hui, on va essayer de voir quelle est la vérité que cache le mensonge de nos séries télévisées.
Bon, donc, quelle est cette part de réalisme qui est en nous grâce aux séries télé?
Justement, on va commencer à travers le prisme le plus simple et le plus évident, qui est le fait qu'un certain nombre de séries vont avoir une volonté, une ambition réaliste.
Donc de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait dans la vraie vie.
Voilà, exactement. Alors, quelle forme ça va pouvoir prendre? Première forme, c'est au niveau de la réalisation assez proche du documentaire. Par exemple, dans une série comme Tremé, qui, ouais. même si c'est fictionnel, c'est assez proche malgré tout du documentaire, puisque ça nous montre un petit peu la vie et le folklore de...
Bah, on a presque l'impression de visiter avec des bons potes la Nouvelle-Orléans, quoi.
Voilà. Dans un registre totalement différent, et là il s'agit uniquement du mode de réalisation, la manière de filmer, c'est dans Friday Night Lights, où on a une manière de filmer très très proche des personnages qui peut faire penser qu'il s'agit de journalistes avec leur caméra à l'épaule qui
c'est
suivent
ça.
Les personnages.
Et là, il y a une part de technique derrière, c'est quoi? Les steadicam, les fameuses caméras qui sont balancées sur les corps des gens, tu vois
Tu t'y connais mieux que moi probablement là-dessus.
Voilà, mais donc toi tu vois cette manière de filmer très réaliste, très proche de la personne en gros, presque première personne.
Oui, oui.
Voilà.
Mais d'ailleurs, je crois que au départ, dans le pilote au minimum, c'était vraiment ça qu'on essayait de représenter, hein, puisque il s'agit de suivre les différents membres de l'équipe et notamment beaucoup le coach, comme si c'était des journalistes qui sont en train de faire un reportage sur ce coach dont le match qui va venir est si important pour la ville de Dillon. On peut aussi citer une autre série qui a aussi un mode de réalisation assez brut comme ça dans sa manière de filmer, je sais pas trop comment le dire, c'est Southland.
Oui. À l'époque, il y avait la même chose dans High Incident. Tu sais que je reviens toujours avec ce dossier-là.
Oui.
Mais c'était un peu la première des séries télé qui parlait, qui suivait en tout cas des équipes de police, qui filmaient comme ça.
Oui.
C'est pour ça qu'elle nous avait un peu marqué à l'époque.
C'est vrai, tout à fait. Alors, là maintenant, c'est plus du tout dans la manière de filmer, mais on va aussi avoir une volonté de reconstitution. Alors, ça peut être volonté de reconstitution de période passée, ou bien volonté de reconstitution de lieux très éloignés. Par exemple, on peut citer Rome, Deadwood, Viking, toutes ces séries-là qui ont une volonté de reconstituer une manière de vivre de l'époque.
Mais
ou
en même
bien...
temps, bon là il y a des dérives, hein. Rome, je suis pas persuadé que ça ressemblait à ça à l'époque, quoi, tu vois.
Mais...
Et les Vikings non plus, enfin à un moment...
Tu connais toutes les réserves que je peux émettre vis-à-vis des séries historiques qui en effet souvent m'énervent.
Ils tentent de se rapprocher d'une certaine réalité.
Voilà. On va dire ça comme ça.
Ils font un effort, mais bon.
Oui. Vis-à-vis de pays étrangers aussi, on peut penser à cette saison-ci, Homeland, qui se situe dans les pays du Moyen-Orient. On a Génération Kill qui suivait des soldats
dans
la guerre C'est la deuxième guerre du Golfe.
En Irak, quoi.
Que c'était la deuxième.
On y retourne.
C'est une sorte de volonté de reconstituer, plus ou moins réussie. Hein, c'est comme les reconstitutions historiques, c'est pas toujours super bien réussi, mais il y a une volonté de réalisme là derrière. On a aussi une volonté de réalisme parfois dans le fait qu'on représente des faits réels. Alors, on en revient encore une fois aux séries historiques, d'un côté, mais alors pas toutes. Hein. Par exemple, Viking, ce sont des personnages qui n'ont absolument pas existé, mais dans Rome ou dans Deadwood, ce sont des personnages historiques, pour la plupart, qui ont véritablement existé, même si
romancé,
ils sont très, très romancés. Hein. On peut aussi penser à Downton Abbey, par exemple. Là aussi, c'est très, très romancé, mais on a aussi une volonté de reconstitution au plus proche d'une époque,
d'un milieu. Ouais, non, ça, c'est clair.
Mais je pense aussi à de nombreuses séries policières ou judiciaires qui disent cette histoire est inspirée de faits réels.
Mm-hmm.
Hein, ben, voilà.
Il y en a.
Il y a aussi cet apport-là de la réalité qui vient faire sa...
Mais bon, il y a certains autres qui te mettent ça en teaser et c'est tout à fait faux, comme Fargo par exemple, le film.
Oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, ne te fais plus avoir. Hein.
Non, parce que j'y ai cru moi.
T'y as cru. Alors, à part ça, on a aussi au niveau des techniques qui sont utilisées. On va avoir dans certaines séries, surtout les séries médicales ou légales, une volonté de représenter comment les experts ou les médecins ou qui que ce soit travaillent véritablement, même si là aussi, bien souvent...
On en rajoute un petit peu.
C'est assez romancé, en effet. Y a certaines séries qui le font de manière relativement réaliste et proche quand même. Il y en a d'autres, on revient un petit peu aux experts, ça me paraît quand même un petit peu exagéré.
Oui, par moments c'est exagéré, mais pour parler d'urgence, moi tant que ça ne se transforme pas en bain de sang comme dans Spartacus, moi je suis ok, ça peut se piter dans tous les sens, okay. J'y crois.
Mais donc en effet, urgence est un exemple, hein, puisque on a tous quelque part en tête certains épisodes d'urgence qui nous ont un petit peu plongé dans ce que pourrait être véritablement le métier d'un médecin urgentiste, face à quoi il est confronté au quotidien et comment il doit réagir dans certaines situations. On est habitué au langage, aux techniques, etc. à travers cette série-là notamment. On peut penser aussi à une série comme The Wire, où contrairement aux experts où ils ont des moyens considérables, on voit au contraire à quel point ils manquent de moyens dans tout.
On voit leur galère au quotidien pour tenter de faire une enquête correcte. Ouais.
Voilà. On a aussi parfois une volonté de réalisme dans la manière où est apportée la narration. J'en reviens par exemple à The Wire, dans la manière dont l'histoire se passe, il y a des grands moments de creux où il se passe rien et qui a aussi une volonté de montrer que les enquêtes ça marche pas toujours, parfois ça mène à rien, parfois ça traîne pendant super longtemps avant que tout à coup il y ait un événement qui se produise et qui relance la machine. Il y a aussi une volonté au niveau de la temporalité de la narration ou bien au niveau du sens qui est donné ou pas d'ailleurs, d'être au plus près de ce que vivent les gens véritablement lorsqu'ils sont dans ces situations-là. Je pense aussi à des séries comme Parenthood, où on a aussi... C'est le quotidien, mais il n'y a pas vraiment d'histoire avec un grand H, entre guillemets. C'est juste le quotidien d'une famille, quoi. Mais quel est le sens au final qu'on a voulu donner à ce...
Ouais, mais bon, le quotidien d'une famille, je suis d'accord, mais ils m'ont quand même beaucoup énervé aussi. Ils sortent tous les clichés possibles et imaginables.
D'accord. On a entendu. Voilà. On va pas refaire le débat sur Parenthood, s'il te plaît.
Une petite pensée à Jabbar, quand même.
Bien sûr. je terminerai avec le fait que certaines séries reflètent aussi véritablement l'esprit d'une époque. Je peux citer par exemple Freaks and Geeks, Friends. Aujourd'hui, je parlerai par exemple plus de New Girl ou de Community, mais également Angela, 15 ans, hein, My So-Called Life à l'époque, qui reflétait un petit peu ce qui flottait dans l'air du temps. Voilà.
Bien. Merci. La suite, musique, et puis on continue le débat, hein, promis.
Ok, donc pour la suite, il s'agit de Teenage Dirtbag de Witus, entendu dans Génération Kill.
Yeah.
retour après cet excellent Teenage Dirtbag. Alors, le fonctionnement social représenté dans les séries, quoi. C'est la représentation des institutions, ce genre de choses.
Alors, notamment, ça va être notamment la représentation des institutions qui permet véritablement... à nouveau, hein, une sorte de pédagogie auprès de n'importe qui, de monsieur tout le monde, une pédagogie au fonctionnement des différents services publics, que ce soit l'hôpital ou que ce soit la justice, la police, etc. Et une sorte d'enseignement à la citoyenneté qui peut être vu à travers les séries. Bon, évidemment, quand nous on est éduqués à la citoyenneté américaine,
ouais,
à travers les séries américaines,
ici, hein.
ça marche moins bien chez nous, mais bon, c'est comme ça.
Au minimum, nous sommes de bons Américains.
Au minimum,
voilà.
Oui.
Nous sommes patriotes.
Alors, une parmi les séries qu'on pourra citer, ben, la série Law and Order, New York District, est à mon avis une des plus représentatives de ce mode-là de réalité, même si certains faits peuvent éventuellement être totalement inventés. Au minimum, la manière dont...
La procédure,
voilà,
judiciaire,
la procédure est assez bien respectée. Mmh. J'ai parlé du fait que certaines séries reflétaient l'esprit d'une époque, mais on a aussi un certain nombre de séries qui vont traiter de sujets de société, de questions de société, ou qui vont aussi intégrer certains événements particulièrement marquants dans leur narration ou dans leur manière de représenter leur histoire.
Tu penses à quoi là ?
Je pense par exemple à une série comme New York 911 qui avait beaucoup traité du 11 septembre.
Ouais, ils ont repris cet événement-là, oui, c'est vrai.
Voilà, et il y a beaucoup d'autres séries, d'ailleurs, qui ont intégré le 11 septembre à leur narration. La crise aussi a été énormément reprise dans beaucoup de séries, sous des formes plus ou moins convaincantes, mais enfin, ça a quand même été beaucoup repris. Mais on peut aussi penser sur un autre mode, par exemple... une série comme Homeland qui se coltine saison après saison à la question du terrorisme et de la comment sécuriser le pays face au terrorisme, ou bien South Park qui dans quasiment chacun de ses épisodes traite de questions de société.
Oui, à leur manière, mais c'est
à
vrai,
leur manière,
si on
mais...
s'est allé lire, décrypter le message qui est derrière, oui,
c'est
évident.
C'est
et
à
il colle
fois
assez
des...
à l'actualité aussi.
Voilà, exactement. C'est à chaque fois, vraiment, ils reprennent les grands sujets qui ont fait débat, à mon avis, dans les médias, et ils les traitent de manière totalement farfelue, mais à chaque fois, ils donnent quand même, au final, leur point de vue sur ces questions-là. Et puis enfin, on a énormément de séries qui vont remettre en question différentes institutions, organisations sociales. Alors ça peut être la prison dans House, ça peut être
House,
dans Oz.
Dans Oz, oui, on est d'accord.
ça peut être le mode idéal de la famille dans Desperate Housewives, par exemple, ou Modern Family, The Middle, etc. Ça peut être... l'idée de la justice dans Dexter ou dans Arrow même, ça peut être le rôle du médecin et est-ce que le médecin doit chercher une forme de diagnostic vérité ou bien au contraire être dans un rapport très empathique avec ses patients dans House. Ça va être remettre en question, se poser des questions au minimum sur qu'est-ce que le couple et qu'est-ce que l'amour de nos jours dans Ally McBeal. etc., etc. On a, ou dans Californication aussi, quelle est l'image des femmes fantasmées ou pas dans Dollhouse, ce genre, enfin, on peut comme ça avoir énormément d'exemples de séries qui se coltinent simplement un pan de l'organisation sociale et qui le questionnent.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est bien. Mais oui, les séries télé savent aussi à ça.
Ben oui, voilà.
Bon, parfois c'est pas toujours voulu, hein. Ils ouvrent des portes, mais ils l'avaient peut-être pas nécessairement senti venir. Ils sortent sur la vague, mais bon, ça c'est ma conviction. Tous les réalisateurs ou producteurs de séries télé, mon avis, n'ont pas tous le génie parfois de ce qu'ils vont produire par la suite. Enfin, tu vois.
Oui, mais peut-être aussi que le génie ce serait d'être capable de faire passer quelque chose qui dépasse ce qu'à la base t'avais voulu transmettre.
Ouais, mais oui, mais voilà. C'est ça. Et pour revenir sur South Park, par exemple, ok, ils ont toujours leur vision des choses partagées, mais bon, voilà, moi je trouve malgré tout qu'ils ont toujours des idées très originales, attention, mais le sujet de base, bah, ils vont juste le pêcher dans l'actu, quoi, tu vois.
Oui.
Voilà. Et après, ils en font, là, on est d'accord, une œuvre d'art. Mais voilà, ils ne doivent pas se casser la tête, je veux dire, pour trouver le sujet. Le sujet est là. Oui. Après, ils le déforment. Voilà.
Tout okay. À fait.
Merci. On en a fini avec ce point. Et je propose qu'on se repose un peu les oreilles avec de la musique.
Alors, la musique, ce sera Everlasting Light des Black Keys, entendu dans Longmire.
suite, la vérité dans les séries télé, et notamment autour des sentiments exprimés.
Alors, les sentiments exprimés et aussi comment on les sentiments reçus.
Ah ouais,
on comment, en aussi. Comment on les ressent. Je veux dire par là, donc il y a une sorte de... on peut trouver aussi dans les séries une sorte de vérité dans... Que ce soit la manière dont les séries nous font ressentir des sentiments pour du vrai. Hein, donc là, il y a une sorte de rapport direct avec notre propre ressenti, notre propre vécu, à la limite même avec notre corps, puisqu'on a des réactions à ce qu'on voit, parfois même extrêmes. On peut pleurer, etc., ou rire devant des séries. Ça, c'est le plus visible. Et on peut citer pas mal de séries. Alors évidemment, on sera tous touchés par des séries différentes, mais des séries qui, a priori, au niveau de leur scénario, peuvent paraître totalement farfelues, mais qui réussissent à avoir ce point d'attache-là avec la vérité, quoi. Le fait de réussir à nous faire ressentir des émotions réelles.
À nous toucher, quoi.
Voilà. Moi, je prendrais comme exemple, mais ce ne sont ici que des exemples, mais une série comme Nashville, par exemple, n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau de sa narration. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt non plus au niveau du message social ou politique qu'elle pourrait faire passer. Si on aime la musique, pourquoi pas, mais...
Et encore.
Voilà. Mais par contre, on peut être passionné par tel ou tel couple et passer son temps à essayer de... s'émouvoir pour l'un ou l'autre, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas, tu vois, et être stressé. Non.
Oui, mais ça, c'est ton côté midinette qui te fait dire ça.
Mais oui, mais ça existe aussi, il faut prendre ça en compte.
Devant Nashville ou Dawson, je verse pas une larme.
Oh, mais c'est parce que, franchement, je me demande, même si tu es humain, as-tu un cœur?
Mais bien sûr que oui. Mais bon, il n'est pas en guimauve, quoi.
Ok. Une série comme Grey's Anatomy, c'est
ouais,
c'est
je
la
me
même
souviens
chose.
De certains moments poignants.
Ah, quand même.
Ouais, mais je vais te surprendre avec une autre.
Oui.
Scrubs,
oui.
Mais
okay.
Oui, il y a eu des moments poignants dans cette série, même si c'était fait pour rire au départ. Mais voilà, le pote de docteur machin, je ne sais plus comment il s'appelle.
Cox.
Voilà, il y a eu des moments très poignants parce qu'on s'attachait très fort au personnage. Et donc, quand il leur arrivait des petits malheurs, on n'était pas contents.
Mais en fait, je crois qu'on pourrait tous citer des séries totalement différentes pour lesquelles, on a parfois pu s'émouvoir de manière totalement incontrôlée, alors que ça se justifie pas forcément puisque ce n'est que de la fiction. Mais comme quoi, la fiction, ça a aussi un effet sur le réel.
Oui, mais bon, là voilà, c'est pas l'exclusivité des séries télé. On peut avoir ça en lisant un bon bouquin ou en regardant un bon film, enfin tu vois.
C'est pour ça que je généralise en disant des fictions, parce que de fait, ça peut être le cas dans beaucoup d'autres médias ou médiums, je sais plus trop quoi. Donc ça, c'est le côté vraiment le plus direct, le plus, comme tu le dis, le plus sentimental au guimauve, hein. Mais on a aussi, et moi Scrubs, je l'avais mis dans cette catégorie-là, même si c'est vrai que parfois on peut aussi l'avoir dans la première, au niveau psychologique et dans la manière dont la psychologie des personnages est analysée, est décrite, est aussi particulièrement bien exprimée de part et d'autre, on a aussi cette forme de vérité-là. Peut-être que ce qu'ils vivent est farfelu, mais au minimum, la manière dont les personnages ressentent certains sentiments paraît réel, paraît vraisemblable. Une série comme J'en reviens à ça, mais une série comme Dawson, par exemple, on a beaucoup critiqué le fait qu'il palabrait beaucoup sur ce qu'il ressent, mais justement, cette manière d'analyser en permanence ce qu'il ressent, c'était une manière de pouvoir permettre une profondeur psychologique, peut-être comprendre comment fonctionnent les sentiments des adolescents. Alors ça a un intérêt limité que tout le monde ne peut pas évidemment
Parfois je me demande même s'ils n'ont pas fait la série que pour toi. Mais si c'est pas juste un mirage, enfin un truc que tu te passes à... Mais non, je l'ai déjà vu en vrai à la télé. Et...
Donc, dans Scrubs, c'est la même chose. Il y a énormément de monologues, de
du JT, blabla en voix.
Et en gros, il analyse la manière dont les personnages ressentent certaines situations et comment chacun peut les ressentir différemment, d'ailleurs, selon les épisodes. Une série comme Rectify aussi va avoir une sorte de vérité dans le ressenti des personnages, une vérité des ressentis des personnages. Dans My Mad Fat Diary aussi, on a des personnages comme ça dont on arrive mieux à comprendre comment ils fonctionnent, même si peut-être l'histoire est fictionnelle. Dans le cas de My Mad Fat Diary, d'ailleurs, je suis pas sûre à 100%, c'est peut-être basé sur la vraie une histoire réelle, mais au minimum, les personnages, on a l'impression qu'ils existent vraiment, ils ont une vraie profondeur psychologique et la manière dont ils réagissent aux événements est vraisemblable, est réelle également. Pour le moment, je suis en train de découvrir avec plaisir une série qui m'était passée par-dessus la tête il y a quelques années qui s'appelle John from Cincinnati. Et je retrouve dans cette série-là la même dimension. Même si la série est totalement barré au niveau de l'histoire qu'elle raconte, les personnages ont une forme de vérité qui leur est très propre, mais qui existe malgré tout. Et la série est intéressante en cela. Comment est-ce que, en racontant une histoire qui n'est absolument pas réaliste, on peut avoir une sorte de vérité malgré tout qui se dégage?
Oui, parce que le monde est porté, le monde créé est vraiment porté par ces personnages très forts, incarnés, et qui on a envie que d'y croire, en gros.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... on se met à leur place, parce qu'on a l'impression qu'ils existent vraiment, on se met à leur place et on imagine comment nous, on réagirait face à ces situations-là. Et c'est assez fin dans la manière dont c'est analysé, quoi. Donc voilà.
Parfait. Est-ce qu'on a terminé avec cette partie du...
On pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples, mais on va s'arrêter là.
Puisque oui, le temps passe, malheureusement. On va déjà revenir avec la dernière intervention avant de se dire au revoir. Et pour aller jusque-là, voici Alanis Morissette et...
You Learn, entendu dans My Mad Fat Diary.
bien voilà, l'émission touche déjà à sa fin, mais on va encore aborder un dernier aspect de cette réalité partagée, cette vérité en tout cas.
Oui, le dernier point sur lequel on peut dire que les séries, malgré tout, nous disent la vérité.
C'est ça qu'elles font.
C'est sur le plan symbolique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est le fait que un grand nombre de séries arrivent soit à travers les questions qu'elles posent, soit à travers les grandes figures mythologiques, fantastiques ou même tragiques qu'elles mettent en scène, à traiter de questions universelles. Qui ont un rapport direct avec la vie de tout homme, finalement.
Un exemple ?
La vie, la mort, la sexualité, l'amour, toutes ces questions-là, le destin, l'individualité, l'identité, toutes ces questions-là sont traitées dans différentes séries. Alors, les séries fantastiques, les séries avec des pouvoirs, etc., sont particulièrement parlantes dans cette catégorie-ci. Évidemment, on peut parler de Supernatural, Buffy, Angel, Misfits, The Walking Dead même, hein, mm-hmm. qui aussi nous parle un petit peu de la vérité, Even, Heroes, The Originals, et on a aussi d'autres séries comme des séries cette fois-ci qui ne sont pas fantastiques mais qui aussi vont se coltiner à ce genre de questions-là éternelles. Par exemple, on peut citer Twin Peaks, Oz, Orphan Black, éventuellement Les Revenants, Sons of Anarchy, American Horror Story, même si là c'est un petit peu fantastique aussi, enfin Breaking Bad, etc., etc. On pourrait encore en citer beaucoup.
Très bien, ben voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, tu veux bien ?
Oui, je veux bien.
Alors, le site internet www.seriefolie.be, Seriefolie en un mot avec SA Série. Vous y retrouverez toute l'actu de votre émission préférée, ainsi que le podcast qui débarque dans quelques jours maintenant. La suite, c'est la musique. On se quitte avec The Air That I Breath.
Oui.
Ou Breathe.
Breathe, okay. Des Hollies,
ouais,
entendu dans Chasing Life.
Très bien, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
I'm see.